Merci. Bien. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous prie d'abord, donc, merci Monsieur le Président de vos mots d'accueil. Et je vous prie de bien vouloir excuser le ministre qui effectivement a été retenu par d'autres engagements. J'ai l'honneur d'être en clôture de ces deux journées d'échange et de discussion que vous avez eues entre vous. Je vois d'une certaine façon, ça ponctue un cycle de 3 ans de réflexion dans un temps de profond changement. En 2011, vous aviez travaillé sur les projets annuels, pluriannuels plus exactement, de services. En 2012, sur les partenariats et cette année, sur les actions des services de santé au travail auprès des entreprises. Je tiens là donc d'abord à remercier Monsieur le Président Le Simple, qui est le nouveau président du CISM, et bien sûr Monsieur Brun et Madame Leteux pour l'organisation de ces deux journées d'études qui sont toujours importantes, alors bien sûr pour vous, mais aussi pour les pouvoirs publics. Mon propos sera relativement court. Je voudrais vous parler de deux choses. D'abord, bien sûr, dans un second temps, vous parler de la médecine du travail, de la réforme, vue du point de vue du ministère. Mais avant, je voudrais faire quelques développements plus largement sur les questions, disons, de santé, de sécurité au travail et voire de conditions de travail, puisqu'il y a des choses importantes qui se passent et que la réforme de la médecine du travail, la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail doit être située dans ce contexte-là. Comme vous le savez, les deux grandes conférences sociales de 2012 et de 2013 ont mis en évidence et ont confirmé l'importance de la politique de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail. La deuxième conférence, celle de juin 2013, avait cette fois une table ronde explicitement et exclusivement consacrée à l'amélioration des conditions de travail. Elle a donné lieu à une feuille de route qui est ambitieuse en la matière, puisqu'il y a été engagée sur cette base une réflexion sur la gouvernance de la santé au travail, tant au niveau national qu'au niveau régional, avec un groupe de travail qui associe les partenaires sociaux, l'État, la direction des risques professionnels de la CNAMST, et qui a été missionnée par le Conseil d'orientation des conditions de travail pour produire des propositions. Je salue d'ailleurs à cette occasion Christian Lenoir, qui est le nouveau secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail. Toujours dans la feuille de route sur la conférence de la seconde conférence, il y a la préparation du plan santé au travail 3. Pour sortir un peu de mon discours, mais je pense que c'est important, je dirais que le premier plan santé au travail était... Là, je le dis souvent, mais c'était que pour la première fois, l'importance de la santé au travail soit affirmée, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le deuxième plan santé au travail, c'était, je pense que l'élément essentiel du deuxième plan santé au travail, c'était d'avoir montré la convergence qui existait entre la branche AT-MP et le ministère du Travail. Et je crois que un des enjeux, pas le seul, du troisième plan santé au travail, qui portera sur la période 2015-2019, ce sera de faire en sorte que l'ensemble des acteurs concernés par les questions de santé et de sécurité au travail aient une convergence et une cohérence en termes d'action et de diagnostic. Toujours dans le cadre de la feuille de route de la conférence sociale, il y a le renforcement de l'efficacité du dispositif de veille et d'expertise en matière de santé aux travailleurs, en matière de santé des travailleurs, avec aussi là aussi le rôle particulier que doit jouer l'ANSES. Un point suivant est consacré à quelque chose qui nous paraît important, qui est le rôle des CHSCT, puisque vous savez que le gouvernement a missionné un grand professeur de droit du travail, le professeur Verkant, pour faire une étude et un rapport en la matière. L'objet de cette mission, c'est pas simplement de développer le rôle et les attributions du CHSCT. Je dirais qu'un des enjeux, c'est de comment passer d'une logique de santé et de sécurité au travail à une logique sensiblement plus large qui est celle des conditions de travail, avec parmi les questions qui sont posées, qui sont jamais évidentes ni pour les entreprises, ni pour les salariés, ni pour les syndicats, c'est quelle est la meilleure articulation entre d'un côté le CHSCT et de l'autre côté l'instance de droit commun qui est le comité d'entreprise. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels travaille le professeur Verkant en ce moment. Et puis toujours dans la feuille de route qui a été élaborée à la suite de la deuxième conférence sociale, Il y a là une question qui est importante, c'est la meilleure prévention des risques professionnels dans les TPE, les PME, dans des situations particulières. Je pense par exemple à la coactivité. Et donc il faut faire en sorte d'éviter, je pense que tout le monde ici dans cette salle en est bien convaincu, d'éviter que quand on parle de questions de santé et de sécurité au travail, il y ait une sorte de frontière qui se crée implicitement entre d'un côté les grandes entreprises et de l'autre côté les PME ou les TPE, sous-entendu avec le risque que c'est dans ces entreprises la priorité serait moindre. Donc ça veut dire donc il y a tout cette feuille de route est importante. Alors après, il en découle toute une série de chantiers qui sont importants, je vous en ai parlé. Donc comme la mission qui a été confiée au professeur Verquint et autres, mais au-delà, dans les chantiers importants qui vont dans cette ligne-là, il y a aussi la transposition législative et réglementaire qui est en cours de finalisation de l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi. Il y a le projet dont on a beaucoup parlé hier, je crois, dans la presse, sur le ministère fort, le ministère du Travail fort. J'insiste sur le fait que cette réforme sur le ministère fort, contrairement parfois à ce qu'on peut en lire ou entendre dans la presse, ne concerne pas que l'inspection du travail. Ça concerne bien sûr l'inspection du travail, mais pas que l'inspection du travail. Ça vise à renforcer le rôle, la place du ministère du Travail, notamment dans son niveau déconcentré. Je pense particulièrement au direct, et que là aussi j'aurai l'occasion d'y revenir, qui joue un rôle particulièrement important sur les questions de médecine du travail. Donc c'est un point important pour nous et pour vous. Et puis il y a un élément, un troisième élément aussi dans les chantiers qui sont importants, puisque le projet de loi est en cours de discussion, c'est le projet de loi sur les retraites, avec notamment un volet important dans cette loi, qui est celui consacré aux questions de pénibilité, qui affecte directement les questions, bien sûr, de santé et de sécurité au travail. Bon, c'est pas le lieu ici de faire tout un développement sur les questions de retraite et de pénibilité. Ce que je voudrais simplement dire ici, parce que parfois il y a des choses là aussi qui sont dites ou qui sont écrites. Le fait qu'il y ait un compte individuel de prévention de la pénibilité, qui est une logique individuelle, qui est une mesure de justice sociale qui permet de prendre en compte les conditions dans lesquelles les salariés sont exposés individuellement à des facteurs de pénibilité, n'interfère en rien les politiques publiques et plus directement les politiques collectives qui sont faites au niveau des entreprises en matière de prévention des risques professionnels. Autrement dit, que les choses soient bien claires, en aucun cas ce qui est fait en matière de compte de pénibilité ne doit être interprété comme une situation dans laquelle on baisserait la garde en matière de prévention des risques. Hein, quoi, je crois que bon, alors, on aura l'occasion. Je crois qu'il y aura peut-être beaucoup d'occasions de rediscuter de cette question. Mais enfin, en tout cas, je pense que du point de vue de la... Le ministre n'est pas là, mais s'il était là, il le dirait encore beaucoup mieux que moi. En aucun cas, la volonté du gouvernement n'est de baisser la garde en la matière. Hein. Et je crois que c'est important que ça soit dit. Alors, donc il y a une feuille de route qui est ambitieuse, il y a des chantiers qui sont importants, et on est aussi à un moment important, parce que c'est une période charnière, puisqu'il y a un certain nombre de documents, de contrats qui vont être signés en ce moment. Alors, ma liste n'est pas exhaustive, mais enfin, je pense que je vais citer quand même les principaux. Il y a la COJ, c'est-à-dire la Convention d'objectifs et de moyens de 2014-2017, qui va lier l'État à la branche AT-MP. Il y a, qui est en cours d'élaboration, il y a le contrat d'objectifs et de performance avec l'ANACT. Et puis, il y a aussi le contrat d'objectifs et de performance avec l'INVS. Alors, chaque fois, ce sont des documents qui sont sensiblement différents puisque les destinataires ne sont pas les mêmes, les attributions ne sont pas les mêmes, mais en même temps, il est de notre responsabilité de faire en sorte que la cohérence et les priorités ne soient pas différentes d'un document à l'autre, et donc il y a un souci justement d'harmonisation et que ce qu'on dit à l'INVS ait une cohérence par rapport à ce qu'on dit à l'ANACT et qu'il y ait une cohérence par rapport, par exemple, à ce qu'on dit à la branche AT-MP. Donc voilà un peu le schéma général dans lequel on se situe. Et je dirais que, voilà, je pense que ce qui est important de bien noter, c'est que du côté du gouvernement, du côté du ministère du Travail, les questions de santé, les questions de sécurité au travail et plus largement les questions de conditions de travail sont une priorité absolue. Alors bien sûr, il y a l'emploi, mais l'emploi n'est pas quelque chose que l'on oppose au travail. Je pense qu'une des logiques importantes qui est portée par ce ministère, c'est de considérer que c'est pas une logique dans laquelle on oppose le travail et l'emploi, mais que la qualité du travail, la qualité de l'emploi contribue à l'emploi. Alors c'est peut-être plus facile à dire comme ça derrière une tribune, mais je pense que c'est quelque chose qui est important parce qu'on voit bien que les conditions dans lesquelles certains postes sont offerts, les conditions dans lesquelles on contribue ou non à la qualité de l'emploi, on voit bien que ça peut avoir des incidences directes sur les questions d'emploi. Alors si on en revient plus précisément à la médecine du travail, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de la réforme. Je pense qu'on s'est suffisamment vu pour qu'on puisse en faire l'économie. Donc l'idée qui est simple, c'est que la réforme a été votée, les décrets ont été votés. J'y reviendrai, encore quelques textes à sortir. La circulaire est venue préciser la mise en œuvre. Donc je pense que ce qu'il est important de faire, c'est de laisser la réforme se mettre progressivement en place, l'enjeu étant une appropriation par les différents acteurs de la santé au travail. Et bien sûr, plus particulièrement au nombre de ces acteurs, il y a les services de santé au travail. La mise en œuvre effective de cette réforme dépend largement donc de la qualité et de la mobilisation de ces acteurs. Je dirais que il y a plusieurs choses que je voudrais dire sur ce point. Il y a d'abord la mobilisation des services de santé au travail, interentreprises, qui doivent concentrer leur action et leurs moyens sur leurs missions premières afin de répondre aux enjeux prioritaires en matière de santé au travail. Et je pense notamment, j'en ai parlé précédemment, à la question des petites entreprises, des petites et des moyennes entreprises. Je pense qu'il y a un sujet aussi, mais bon, je pense que tous ces deux jours ont été l'occasion justement d'assister sur ce point. Je pense qu'il y a un sujet aussi qui nous concerne directement, en tout cas qui me concerne directement, c'est la question du pilotage des services, quoi, du pilotage, entre guillemets, enfin disons les conditions dans lesquelles la politique est mise en œuvre par les directs. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dites, qui peuvent avoir parfois des approches différentes selon les directs. Donc là, je crois que les messages sont passés. Et là, je dirais que de notre point de vue, de notre approche, de la situation dans laquelle je suis, il est de ma responsabilité de faire en sorte justement que cette cohérence et cette harmonisation soient faites entre les directs et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une approche différente d'une directe à l'autre. Toujours dans les sujets d'attention, il y a la mise en œuvre de la politique de l'agrément. Donc là, c'est ce qui relève de la directe. Et puis, il y a aussi la mise en œuvre de la contractualisation avec donc d'un côté les services de santé au travail et de l'autre côté les CARSAT et les directs. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'une dynamique, de notre point de vue, s'est installée et de n'avoir notamment sur les projets pluriannuels de services. Quelques éléments. Il y a 17 CPOM qui ont été signés à ce stade. Il y en a 2 en Lorraine, 3 en région centre, 8 en Champagne-Ardenne et 4 en Languedoc-Roussillon. Et plusieurs sont attendus dans les prochains mois. Et de la même façon, on constate que la politique et les agréments se font progressivement. S'agissant de la gouvernance des services de santé au travail, les statuts des services, la composition des conseils d'administration, la mise en place des instances de surveillance sont perceptibles et témoignent d'une mise en conformité progressive avec la loi du 20 juillet 2011. Néanmoins, je pense qu'il est important de ne pas minimiser les difficultés qui apparaissent, comme la composition et le fonctionnement de la commission médico-technique, qui a un rôle si particulier à jouer en matière de dialogue et de proposition entre les représentants des membres de l'équipe pluridisciplinaire en présence du président du service ou de son représentant. C'est elle, cette commission, qui élabore, je le rappelle, le projet pluriannuel de service qui constitue un document pivot essentiel pour la gouvernance des services de santé au travail. S'agissant de la pluridisciplinarité, des recrutements sont en cours dans la plupart des services, notamment ceux d'intervenants en prévention des risques professionnels et d'infirmiers pour compléter les équipes pluridisciplinaires. Là aussi, la dynamique doit se poursuivre. L'enjeu est aujourd'hui celui de faire ensemble dans une équipe plurielle, animée et coordonnée par le médecin du travail. Il y a eu beaucoup de malentendus lors de la réforme, de l'élaboration de la réforme sur l'indépendance des médecins du travail. Bon, celle-ci a été clairement réaffirmée par la loi dans les conditions qu'on connaît et personne ne songe à la mettre en cause. Mais ce qui est en cause maintenant, c'est non pas de retirer l'indépendance, ce dont personne ne veut, mais c'est d'ajouter des choses à l'indépendance, donc d'assurer un bon fonctionnement des services pluridisciplinaires autour du médecin du travail. Le ministre, et plus particulièrement la Direction générale du travail, est particulièrement vigilante sur la qualité du pilotage de la réforme, qui donc doit associer l'ensemble des parties prenantes. S'agissant des textes qui sont encore attendus, certains textes sont encore attendus, comme le décret relatif au suivi de certaines catégories particulières de salariés, pour les salariés du particulier employeur, les mannequins, les VRP, les négociations entre partenaires sociaux sont en cours et il n'y aura donc pas à ce stade de décret dans l'immédiat. Pour les autres catégories particulières de travailleurs, je pense aux stagiaires de la formation professionnelle, aux travailleurs détachés, aux travailleurs éloignés, un décret est en cours d'élaboration. Par ailleurs, divers arrêtés sont en cours d'élaboration et certains présentent une importance particulière. Je pense notamment aux textes relatifs aux rapports administratifs et financiers et aux rapports d'activité, dont je sais qu'ils sont légitimement très attendus, mais qui doivent faire l'objet d'un travail particulier, tant leur contenu est important, et c'est ce qui a noté notamment le rapport de la Cour des comptes, de la Cour des comptes. Je pense également, toujours dans les arrêtés en cours, à venir, à l'arrêté relatif à la fiche d'entreprise, au regard de son importance comme principal outil d'aide à l'évaluation des risques, notamment là aussi dans les PME-TPE. D'autres textes en sont à reprendre suite à des contentieux, comme le ministre d'ailleurs s'y est engagé. Un décret en Conseil d'État sera présenté très prochainement aux partenaires sociaux pour répondre à l'annulation par le Conseil d'État de certaines dispositions sur la forme et sur le fond. Je précise que ce serait un sujet en soi, que les raisons pour lesquelles le Conseil d'État a annulé sont des raisons de pure forme et non pas des raisons qui tiennent au fond. Donc les décrets seront repris et donc il n'y aura pas de changement par rapport au fond. Alors j'insiste sur un point, c'est que à l'occasion donc de la reprise de ces décrets suite à l'annulation contentieuse par le Conseil d'État, le décret qui sera pris permettra aussi, et j'en suis particulièrement heureux, alors je pense que là cette joie sera partagée peut-être par l'Assemblée. Au terme d'un long travail, on va dire long travail avec la DGOS et l'Ordre des médecins, on va pouvoir faire évoluer les missions confiées aux médecins, aux collaborateurs médecins. Donc un décret est en effet nécessaire pour assurer la sécurité juridique, puisqu'on parle beaucoup de sécurité juridique, pour fixer le cadre juridique de leur intervention. Les collaborateurs médecins pourront enfin ainsi réaliser certaines visites médicales et donc délivrer des avis d'aptitude avant la fin de leur formation sous certaines conditions et sous la responsabilité de médecins du travail qui seront confirmés et volontaires. Donc on profitera de l'occasion qui nous est donnée par le nouveau décret pour assurer cette ouverture des missions des médecins collaborateurs. Ceci dit, je pense qu'il y a un certain nombre de gens ici qui partagent cette préoccupation. Je pense qu'il faut faire relativement vite et donc sans attendre la sortie de la publication de ce décret, je signerai très très rapidement une instruction qui précisera le nouveau cadre d'intervention des collaborateurs médecins. Donc pour accélérer les choses, je prendrai la circulaire et ensuite tout ceci sera confirmé dans un décret qui sera publié très prochainement. Dernier point enfin, un bilan, comme ça avait été dit par le ministre, un bilan de la réforme, le bilan partagé sur l'application de ces réformes sera présenté au comité permanent du Conseil d'orientation sur les conditions de travail dans le courant du premier trimestre 2014. Ce sera l'occasion de partager et de mettre en débat l'ensemble des informations des différentes parties prenantes et donc y compris bien sûr celle des services de santé au travail et bien sûr du SISM, sur la réforme de la médecine du travail. Ce bilan portera notamment sur la montée en puissance de la pluridisciplinarité, sur les évolutions de la gouvernance, sur les nouveaux agréments accordés par les directs, sur la question par exemple de la périodicité des visites médicales, sur la question des effectifs maximum de salariés suivis par les médecins du travail ou sur les équipes pluridisciplinaires. Et enfin, bien sûr, ce bilan portera sur les conditions dans lesquelles s'appliquent et sont mises en œuvre les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Donc tout ceci pour dire que bon, il y a eu un moment d'élaboration de la réforme. Donc là, je pense qu'il y a deux enjeux qui nous semblent extrêmement importants. C'est le premier enjeu, c'est d'approfondir la réforme et donc de mettre en place, véritablement de la mettre en place. Il y a des choses qui concernent les services de santé au travail, il y a des choses qui concernent plus particulièrement le ministère du Travail, il y a des choses qui concernent la coordination entre la branche AT-MP et le ministère du Travail, et les CARSAT et le ministère du Travail. Donc je dirais que chacun a un rôle à jouer. Je pense que c'est ça qui est important. Et le deuxième enjeu, c'est qu'on fasse le bilan calmement, posément, loyalement, de façon à ce qu'on puisse voir les points sur lesquels éventuellement il y a matière à amélioration. Il peut y avoir certains points de blocage. Donc, au nombre des points de blocage dont on parlait beaucoup, il y avait la question du rôle et des attributions des médecins collaborateurs. Et là, sur ce point, je pense que maintenant, les choses devraient pouvoir évoluer rapidement. Alors, je crois qu'il y a un recours qui a été fait sur cette question-là. Je pense que c'est l'occasion je pense que la meilleure réponse au recours ne viendra pas du Conseil d'État, mais viendra de la Direction générale du travail par une modification de la circulaire, et je le dis bien, par une modification très rapide du décret. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ce n'est pas forcément une conclusion, parce que je ne sais pas si on peut faire une conclusion en matière de santé au travail et puis en matière de médecine du travail, parce que je pense que c'est un chantier qui est en perpétuel mouvement. Mais quoi, j'insiste sur le fait qu'il y a la médecine du travail dans tout ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'au départ, j'ai parlé du contexte dans lequel se situait la santé au travail. Je pense que les enjeux sont énormes. Et que, en tout cas, aussi bien les entreprises que les salariés attendent beaucoup des conditions dans lesquelles cette réforme sera mise en œuvre. Donc, je vous remercie. Et puis, maintenant, la balle est dans notre camp, pas à vous, mais à tous. Voilà, merci.
Merci. Merci.